Salut à tous, vous écoutez intensément la web radio du collège Joséphine Baker. C'est l'heure de Geek and Live, votre émission jeux vidéo et pop culture. Aujourd'hui on se retrouve avec Maël, Yeton et Monsieur Gollum.
Salut,
bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui on va parler de Geek and Live.
Geek and Live qui est le festival de jeux vidéo qui s'est tenu la semaine dernière, donc les 22-23 janvier, au Parc des Expos. Et où vous êtes allé?
Ouais, et c'était franchement trop bien. Il y avait... Je sais pas comment décrire, mais en fait au milieu il y avait... une grande scène où il y avait des gens qui parlaient, je crois que c'était en live. Et plein autour, c'était plein de petits stands et tout, où c'était vraiment, vraiment trop bien. Il y avait beaucoup de gens déguisés en cosplay et tout. Et puis...
Il y a eu un concours de cosplay, hein?
Ouais. Oh.
Maël, tu t'es pas présenté?
Non, moi j'ai pas pu y aller.
Ah, t'as pas pu y aller? Je pensais que tu y étais allé, moi.
Non, j'y ai pas pu, justement. Okay,
nice. Alors du coup, Noé, toi qui as été, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié?
Déjà, j'ai fait un tour global et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment les gens qui étaient déguisés et tout parce que c'était trop bien. Il y avait Dark Vador, Mando...
Il t'a impressionné, Dark Vador. Tu en as beaucoup parlé au début de semaine. Hein. Et à quoi est-ce que tu as joué un peu?
J'ai joué aux consoles rétro gaming. J'ai joué à Mario Kart... Après, je sais plus comment s'appelle le jeu, mais ouais, plein de petits jeux cool.
Alors ce qui serait sympa avec Yeton, avec Maël, ce serait justement qu'on revienne un petit peu sur ces jeux rétro gaming. Il y en avait pas mal au Geek Live. C'était fait pour séduire un petit peu les jeunes par l'association Retro Taku. Il y avait aussi des développeurs. Quelle est votre pratique, vous, du jeu rétro gaming? Donc on va parler de rétro gaming, jouer avec des consoles qui ne sont plus produites aujourd'hui. Donc finalement, on pourrait le prendre quasiment à partir de la PS3. Quelle est votre pratique de ces jeux-là? Noé, parle-nous un petit peu aussi de ce que toi tu as vécu ce week-end. Je sais que Maël, tu m'en as parlé un petit peu hors antenne la semaine dernière. J'aimerais que vous partiez un petit peu sur ce terrain-là.
Moi, j'ai beaucoup joué, par exemple, sur la PS1, avec Jack. Après, c'est plus sur la PS2, donc Ratchet et tout.
D'ailleurs, j'ai appelé mon chat Ratchet.
C'est vrai?
Ouais. Voilà. Et vous, Maël et Yeton?
Moi, j'ai deux anciennes consoles. C'est une Nintendo 64 et une GameCube. Je joue, même si c'est vieux, c'est quand même intéressant d'y jouer. Il y a aussi des jeux sympas, mais voilà.
C'est sûr que ça a vachement vieilli, toutes ces consoles. Elles fonctionnent encore, ta GameCube, Maël?
Ouais, elle fonctionne encore, et ma Nintendo 64 aussi.
Ah oui, Nintendo 64, d'accord. Ouais, donc avec pour le coup un pad très particulier, un pad avec trois proéminences. Hein, je sais pas si vous avez... Je sais pas si c'est celui-là que tu as joué du coup le week-end dernier.
Je m'en rappelle plus.
C'était un Mario Kart qui était sur Super Nintendo, qui était... Ah non, il y avait Double Dash, effectivement, sur GameCube. Qui est un excellent, d'ailleurs, Mario Kart.
Mon frère, il avait... Il avait une Wii qui était, je sais pas si on... en gros, elle était crack et du coup, on pouvait jouer à des jeux de GameCube. Et j'avais les manettes du coup de GameCube. Et avec mon frère, on faisait des parties sur Mario Kart. Et c'était trop bien.
Bien sûr, dans cette émission, nous ne parlons pas de choses prohibées. Cela va de soi. Hein, donc cela n'engage la responsabilité de ceux qui le font. Et on passe au passage un petit bonjour à l'association Retro Taku qui avait mis à disposition toutes ces consoles. Ils ont vraiment un ensemble de consoles assez impressionnantes et ils les avaient mis à disposition du jeune public. Je te laisse enchaîner du coup, Noé, avec vos jeux du moment. Hein, ceux à quoi vous jouez en ce moment. Je crois notamment qu'Eton avait envie d'en parler. Donc je te laisse enchaîner.
Ok. On va commencer avec Eton du coup.
Alors je sais pas si c'est un jeu que vous connaissez peut-être ou peut-être ou pas, je sais pas. C'est un jeu qui s'appelle Five Nights at Freddy's.
Ouais, si.
En gros, vous voulez que j'explique ou vous savez c'est quoi?
Explique.
Ok. Donc, en gros, c'est un jeu. En gros, nous sommes un gars. Nous sommes engagés à. Pardon. Nous sommes engagés à un restaurant. En gros, nous sommes engagés comme gardes de nuit pour surveiller un restaurant. Donc du coup, nous sommes dans une petite salle où nous sommes sur un fauteuil, etc. Et en fait, notre but, c'est de surveiller le restaurant. Le problème, c'est que dans le restaurant, on n'est pas seul. Il y a des robots. En gros, c'est des robots en général. Je ne sais pas si vous connaissez Chuck E. Cheese aux États-Unis, qui est un restaurant, en gros, des robots, etc. font des petits spectacles, etc. Bah là c'est la même chose, sauf que c'est avec en gros, des robots.
Un restaurant qui existe pour de vrai,
Non, oui. Mais ça a été inspiré d'un en gros d'une histoire qui s'est passée dans un restaurant aux États-Unis qui s'appelle Chuck E. Cheese.
D'accord. Et rappelle-nous juste rapidement le nom du jeu.
Five Nights at Freddy's, qui veut dire en gros 5 nuits chez Freddy, quoi.
D'accord, ok. Donc vas-y, ouais, du coup tu peux enchaîner.
Et du coup le restaurant s'appelle Freddy Fazbear Pizza, où genre en gros des enfants etc vont voir leur animatronique préféré, leur faire des petits spectacles, aller manger de la pizza là-bas. Et du coup nous sommes engagés comme garde du corps. Garde de sécurité.
Garde du corps de la cuisine.
Genre en gros nous sommes dans une petite salle où nous pouvons fermer les portes etc, et nous avons des caméras, et du coup nous devons vérifier, du coup là il y a un gars, il nous appelle, qui nous dit ce qu'il faut faire etc pour en gros comment rester en vie. Et du coup en fait les animatroniques la nuit ils ont un truc en fait, c'est qu'ils peuvent bouger, genre en gros en mode ils ont la capacité de bouger, puisqu'en fait ils ne voient personne, du coup ils vont aller chercher quelque part pour voir s'il y a d'autres personnes. Et du coup dès qu'ils nous voient, ils nous voient comme un squelette animatronique sans costume. Et du coup, ils vont essayer de nous attraper et le mettre dans un costume. Et nous, pour les empêcher, on doit fermer les portes. Et du coup, genre, en gros, il y a Bonnie, qui est le lapin. Il y a Freddy, l'ours. Chica, le poulet, quoi. Et Foxy, le pirate. Et aussi, il n'y a pas que le 1, il y a plusieurs FNAF. Le jeu, il a aussi une histoire cachée. Donc peut-être que je vais pas peut-être le dire parce que c'est assez long. Et du coup ça prendrait quelques heures. Et du coup voilà.
Ok. Et toi Maëlle?
Moi je connais aussi le Five Nights at Freddy's 5. Le nouveau qui est sorti,
oui,
il y a pas longtemps.
Le Sister Location, je crois.
Alors du coup ça sort de manière épisodique ou bien...
Ouais, comment... en fait t'es avec un petit garçon, il s'appelle Grégory.
Non mais ce que je veux dire c'est que c'est des saisons en fait ça... finalement.
Ouais
non,
ça, en fait c'est des chapitres et tout à chaque fois.
En gros ça c'est pas dans le 5, parce que dans le 5 c'est le Sister Location, ça c'est dans le... Tu veux dire le 7 quoi, le nouveau quoi, le Security Breach.
Ouais c'est le 5.
Non c'est pas le 5.
En fait c'est vraiment un jeu avec des saisons, c'est fou ça, le jeu est vraiment devenu saisonnier en fait.
Ouais.
En gros ça a aussi une histoire. Le jeu, si c'est une histoire.
Ouais mais en vrai ça change parce que il l'a mis avec Freddy, ouais. Genre il l'aide à s'échapper et tout, alors que d'habitude pas du tout.
Et je tiens à préciser que si vous êtes sensible à ce genre de truc, n'y jouez pas.
Parce qu'il y a des gros screamers qui arrivent sur vous.
Alors oui, quand je regarde comme ça, alors j'ai pas tout compris, mais ça fait un petit peu peur effectivement.
Ça
date de 2014, ouais, c'est du survival horror a priori.
Ouais. Peggy combien?
16.
Peggy. Ah oui, vous êtes en train de me parler d'un jeu qui est interdit au moins de 16 ans.
Ne jouez pas à un jeu de 16 ans.
Moi je ne le vois pas. Hein. C'est pas indiqué Peggy 16.
Et le jeu il a été développé par Scott Cawthon, je crois.
Qui est?
Scott Cawthon qui est un développeur de jeux vidéo.
Et donc on passe tout de suite aux séries et mangas du moment. Et on commence avec Yeton.
En ce moment j'ai pas trop de mangas sauf la nouvelle saison de Demon Slayer. Et j'ai juste regardé un épisode et je suis pas parti loin. Bon, parce qu'en fait le partout TikTok ça me spoil partout, donc j'ai pas besoin de regarder la série.
Et toi Maëlle?
Je lis plus Dragon Ball en livre, en film et tout. Pour moi c'est mon manga favori.
Un vieux de la vieille quoi.
Voilà, mais ouais. Mais par contre, ce que je trouve décevant, c'est dans les nouveaux livres qui sont sortis, je trouve que même les premiers Dragon Ball, quand Goku il avait 14 ans, ils étaient mieux que Dragon Ball en Super là, en livre.
Alors c'est un gros problème, c'est un gros point de débat sur Dragon Ball. Est-ce que Dragon Ball Super est mal fait par Toyotaro, qui est le nouveau dessinateur, hein, qui remplace Akira Toriyama au niveau des dessins? Et on avait déjà remarqué au niveau de la diffusion de Dragon Ball Super, parce qu'il y a du dessin animé, hein, de l'animé, que en fait il y avait vraiment des plans qui étaient très très laids et qui avaient été très très mal faits. Et ouais, du coup, quel est ton avis toi sur la question entre les nouveaux Dragon Ball Super et les anciens, Maëlle?
Moi je redis, je préfère quand même les premiers, parce que en vrai les Dragon Ball Super ils sont bien, mais le problème c'est que c'est toujours pareil et tout. Toujours qu'ils revivent toujours avec des Dragon Ball et tout, et l'histoire elle change pas en fait. Il y a d'autres personnages, mais ça change pas.
Alors effectivement, c'était ce que tu nous disais déjà dans une autre émission qu'on avait eue ensemble, où effectivement, il y avait toujours la même... ça se finissait toujours un petit peu de la même manière, ça commençait à être un petit peu lassant.
Ouais,
parce
tout
que,
le temps, quelqu'un se sacrifie et tout.
Bah, c'est, souvent, c'est toujours le même, en fait. C'est-à-dire que
c'est toujours Goku.
Goku est déjà mort deux fois, il a été ressuscité deux fois, Vegeta a été ressuscité une fois. Il y a un moment, en fait, on ne perdra jamais les personnages principaux, quoi.
Ouais.
Et j'avais un truc à ajouter sur cela, c'est que c'est un peu vrai. Lorsque je rate Dragon Ball, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Toujours des combats et il y a... Nouveaux personnages, c'est bien, mais il n'y a que du combat, quoi.
Ouais, et le risque, c'est qu'on a attendu quand même cette suite de Dragon Ball pendant des années. Enfin, moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, mais c'est pas mal de lecteurs de Dragon Ball l'ont attendu. On n'a rien eu, en gros, entre 96 du coup, et 2014, donc ça a été quand même vachement long.
Et surtout que... voir un peu tout le temps des combats, on va pas se mentir, les combats aussi c'est bien, tu vois, ils se battent, etc. Mais après, ça ennuie un peu. Puisque dans un Dragon Ball, j'en vois tout le temps des combats.
En sachant que si on suit en plus la publication en manga de Dragon Ball Super actuellement, en fait les chapitres n'avancent vraiment pas. Je sais pas si vous suivez vous, l'arc Granola qui est en cours, ce n'est pas une série, hein. En fait ça n'avance pas du tout.
Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai tous les livres Dragon Ball Super, parce que je crois que ça s'arrête au 15, 14, 16, et en fait,
c'est encore en parution au Japon.
Ouais, il y a au moins 6 tomes que j'ai, mais qu'en fait, la série, elle continue pas. Parce que,
comment ça?
Ils sont disponibles en livre, mais je sais pas s'ils sont en train de la faire, série.
Si, non, mais c'est en cours, là il y a un arc qui est en cours, ils en prévoient déjà un autre. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est juste une succession d'histoires, finalement, les unes après les autres. Après Beerus, le dieu de la destruction, après... peut-être le tournoi de l'univers avait un petit peu posé question, est-ce que l'univers va survivre, oui ou non. Mais là, en fait, t'as l'impression que c'est une succession d'événements les uns après les autres. On ne retrouve pas, en fait, l'émotion originelle du premier Dragon Ball, je trouve, et surtout Dragon Ball Z, qui était bien mieux encore que Dragon Ball.
Ouais.
Surtout que moi, avant, j'aimais bien les anciens Dragon Ball, et je les trouvais cool, etc. Mais les nouveaux, pas beaucoup.
Ça reste agréable, mais c'est vrai que c'est pas forcément au niveau de ce qui avait été produit dans les années 90.
Ouais. Aussi.
Et pour ma part, moi, c'est sur Disney+. Il y a les Malcolm qui sont sortis. Voilà, et franchement, c'est trop bien.
Alors, raconte-nous un petit peu cette série, s'il y en a qui ne la connaissent pas.
C'est une famille, américaine, qui vivent un peu dans la pauvreté. Et,
famille modeste, ouais, voilà. Effectivement.
Et donc, en gros, ça suit la vie d'un enfant qui s'appelle Malcolm. Qui est un génie, et en fait avec ses frères ils font un peu les 400 coups, et franchement c'est drôle à regarder. Et puis après sans spoil, mais il y a un peu de voilà quoi, il y a un enfant qui naît, c'est bien,
c'est série suspense.
Est-ce que vous regardez vous autres Malcolm un petit peu
Moi j'en ai déjà du coup entendu parler, on m'a déjà parlé de la série, du coup peut-être que je vais regarder, ça a l'air cool, etc. Donc ouais, peut-être.
C'est une vieille série hein, qui date des années 2000, très irrévérencieuse, c'est-à-dire que c'est une série qui critique vraiment le système américain, comme tu le disais, c'est une famille de la classe moyenne américaine qui a du mal à vivre, et dans cette famille, étrangement, il y a un enfant. T'as dit quelle était la particularité de Malcolm?
Oui, qu'il est un génie.
Ouais, c'est un génie, donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un HPI, hein, un haut potentiel intellectuel. Et il se retrouve dans cette famille très bizarre. Comment est-ce que tu pourrais décrire le caractère des parents?
Je sais pas comment décrire le caractère des parents.
La maman est complètement hystérique.
Oui.
Ça c'est clair. Et puis le papa est
complètement... Al, par contre, il me fait bien rire. Quand il fait des... Je sais pas quoi, il est paniqué, il fait...
C'est un très bon acteur, effectivement, qu'on a retrouvé plus
qui
tard.
Qui a joué dans Breaking Bad.
Qui a joué dans Breaking Bad, très très juste. C'est vrai qu'il doit être Peggy 18.
Non, il y a aussi Boba Fett que je regarde, qui est une très bonne série. Donc ça suit en fait quand Boba Fett il est tombé du vaisseau. Et donc il y a aussi Boba Fett que je regarde, une série du coup qui suit ce qui s'est passé après qu'il est tombé du vaisseau de Jabba, c'est ça. Et donc voilà. Et donc Maël qui voulait parler un peu de...
Ouais, moi j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu un peu la bande-annonce. Je sais pas quand je vais commencer, ça fait déjà à peu près 3 semaines que je vais regarder la série, mais je peux pas. Mais je vais bientôt la regarder. Mais je crois que c'est aussi la suite avec le Mandalorian. Avec,
c'est pas la suite, c'est une histoire parallèle. Ça, voilà, ça se rejoint, ouais. Parce qu'en voilà. Fait, le fait que Boba Fett récupère son armure,
son costume,
de spoiler, ouais. Mandalorian, dans la deuxième partie de la saison 2, en fait, ça n'est pas repris dans Boba Fett.
Et ouais. Il récupère son armure, mais aussi il essaie de se souvenir de ses souvenirs, quand il se fait récupérer aussi par les hommes des sables et tout.
Effectivement, ouais. au tout début de Boba Fett, ouais.
Ouais, dommage aussi qu'il n'y ait plus Grogu, je crois.
Je sais plus, mais ouais. Ah, Grogu, oui, non, mais c'est dans Mandalorian.
Ouais, mais...
Ah oui, le petit Yoda,
le petit,
là.
Ouais. La race de... Bah,
qui reste une énigme, hein, ça reste un truc exploitable, enfin, un ressort exploitable.
Parce qu'en ce moment, j'entends plein de personnes, ils disent bébé Yoda et tout. Mais à un moment, Mando, à un moment, il apprend son prénom, c'est et à un Grogu, moment, il dit Grogu, à un moment.
Oui, c'est Grogu. Ouais. Oui, tout le monde l'appelle bébé Yoda, parce mais que bah, je pense que c'est
il
plus
ressemble.
Facile à retenir.
Bah, et puis, parce qu'en fait, il n'a pas d'identité propre. On ne sait pas quelle est sa race, parce que la race n'a pas été définie par George Lucas dans le canon de Star Wars.
Mais franchement, ouais, très bonne série. Mandalorian aussi, d'ailleurs, j'ai un pop de lui. Et c'est...
Mandalorian m'a l'air quand même un peu meilleur que Boba Fett.
Ouais.
Surtout la saison 2 de Mandalorian.
Ouais,
qui
mais
était
après, ce qui est
bien,
je trouve que c'est Boba Fett, ça rejoint en fait une histoire qui a un peu. Été laissée à l'abandon parce qu'il est tombé et il n'y a pas eu de truc sur lui ni rien. Et que là, aujourd'hui, ils reprennent le truc, je trouve que ça fait un peu un. Suspense, je sais pas. Mais ouais, franchement, c'est...
T'as tout à fait raison, dans le sens où, en plus, quand on regarde la série, eh ben, il récupère pas mal d'éléments des films, et vraiment des choses très anciennes. Il y a du design qui est vachement ancien au niveau des décors, et ça nous rappelle, en fait, les Star Wars, donc épisode 4, 5, 6. Et là, t'as raison. C'est vrai que, du coup, ils ont vraiment un retour aux sources de ce point de vue-là qui est très appréciable.
Et donc, c'était le dernier sujet. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite.
Au revoir.
Adios.
Adios, amigos.